Au-delà des apparences.
Au-delà des apparences.
Une émission proposée par Sandrine Merck.
Bonjour à toutes et tous.
Je reprends.
Bonjour à toutes et à tous. Les Jeux d'hiver sont là, olympiques et paralympiques. Et c'est l'occasion d'aller puiser dans les incroyables réserves de ces grands champions, qu'ils soient debout ou sur fauteuil. La semaine dernière, nous avons évoqué avec Omar Bouyoucef cette longue traversée du désert avant qu'émergent les performances handisport de l'anonymat en France et dans le monde d'ailleurs. Aujourd'hui, Omar Bouyoucef, qui a fait cette longue marche anonyme avec des autres athlètes et qui voit aujourd'hui émerger l'admiration des valides pour les performances des non-valides, va nous raconter sa propre vie et ce qu'il a à dire aux jeunes personnes handicapées. Donc, la case départ, c'est Roc Tayad, dans le Gers, un centre de rééducation, mais où finalement vous avez passé toute votre enfance et toute votre jeunesse, avec un directeur, je dirais, hors pair.
Ben, je suis arrivé en 78.
D'abord. Donc à 2 ans.
Oui, j'avais 8 ans, on va dire.
Ah oui, 8 ans, oui, c'est
ouais. Voilà, mais j'ai eu la maladie quand même. Je suis arrivé très tôt en France à l'âge de 2 ans. J'ai d'abord séjourné à Carqueiran.
À cause de la polio.
À cause de la polio. Mm-hmm. J'ai fait Algérie directement à Carqueiran. Donc, vous imaginez, Carqueiran était entouré de plein de palmiers. Ça ne m'a pas trop dépaysé au début. J'avais la mer pas loin aussi. Et voilà, c'était toute cette petite jeunesse, tout ce qui m'a manqué, voilà, ce décalage avec ma famille.
Ouais.
Parce qu'on a quand même besoin, à l'âge de 2 ans, de sa propre maman. Et tout ce qui m'a manqué, je crois que je l'ai mis à fond dans le sport, dans l'inconnu, dans le handicap qui n'était pas un handicap, parce qu'il fallait faire comme tout le monde. Moi, je me voyais en tout cas un petit peu comme une personne qui est, bon, c'est sûr qu'il y avait des difficultés au niveau des jambes puisqu'elles ne fonctionnaient pas, mais je me servais des bras complètement, je décuplais ses forces. Et à partir de là, quand je suis arrivé à Roc Tayad, qui était pas loin d'Auch, un centre qui était pionnier en la matière du handisport, parce qu'il a été justement président, même un des responsables du centre, du comité régional Midi-Pyrénées, handisport, avant Toulouse, pendant 20 ans, de 76 à 96. Donc en 78, j'étais complètement dedans, forcément. On nous présentait plein d'infrastructures que je ne connaissais pas, des stades de 250 mètres. Je m'en suis servi complètement à faire quelques tours, j'en ai fait des milliers de tours. Pour pouvoir faire de l'athlétisme au début, il y avait des stands de tir pour faire du tir. Je pensais pas que plus tard ça allait me servir pour le biathlon. Cette petite carabine, et voilà où il fallait travailler l'adresse. C'est tous ces petits trucs-là, le travail même dans le tir à l'arc, la natation, ben, tous ces petits sports qui comme tout enfant qui à l'âge de 8 ans peut exercer une fois par semaine. Ben moi, je m'éclatais complètement dans ça, parce que c'est une manière d'oublier le handicap aussi.
Et d'oublier la famille qui était à des milliers de kilomètres, pour toujours, quelque part, un peu.
Et à chaque fois, comme montrer que j'avais un handicap, pour moi, c'était une manière de surmonter tout ça. J'avais envie de décupler cette force encore plus, pour montrer qu'on n'était pas du tout handicapé.
C'est-à-dire
qu'on faisait du sport.
Expliquez ça, là, ce réflexe par rapport au regard un peu apitoyé, probablement tout le temps, qu'on a sur un fauteuil, sur un handicap, etc. etc. En quoi ça vous boostait encore davantage de dire, toi mon gars, tu vas voir.
Parce que c'est vrai qu'on voyait un petit peu le miroir des gens. Oh là là, les malheureux, oh, il ne faut surtout pas l'approcher. Surtout les parents qui expliquaient à leurs gamins que ce monsieur avait un gros handicap, alors que nous, on ne se sentait pas du tout handicapés. Et par la suite, on leur a expliqué quand même que ce n'était pas très grave. Hein. On pouvait faire fonctionner au moins la tête, elle n'était pas atteinte, et les bras.
Parce qu'ils vous pensaient contagieux, peut-être.
Voilà, contagieux, parce qu'on connaît. Voilà, il y avait une
méconnaissance incroyable.
Incroyable.
Ouais. Ouais. Et des poncifs complètement.
Ça pouvait porter malheur de s'asseoir sur un fauteuil, par exemple, ou d'enlever les cannes de la personne. Il fallait surtout pas jouer avec le handicap.
Ah oui.
Ouais. On ne sait jamais. La personne pouvait, si elle se moque d'une personne qui a un handicap, et ben pour devenir aussi handicapé, des choses là, des.
Alors, c'est vrai que vous avez eu un directeur, enfin, en tout cas celui que j'ai connu au centre d'accueil Pascal Meurant à Roc Tayad, dans le Gers, qui lui, alors là, faisait tout l'inverse. Il se moquait, il poussait les fauteuils, il vous faisait tomber. En fait, il vous poussait hors les murs en permanence aussi. Et lui aussi, donc au sens propre, pas qu'au sens figuré, vous a fait tomber pour que vous vous releviez sans cesse. Et le chahut, c'était quand même son grand truc, hein, pour vous faire repousser vos limites d'adolescent handicapé, en fait, et pour vous projeter hors les murs de l'institution. Ça, je sais que vous y tenez beaucoup.
Ben, je crois qu'il nous a permis déjà de faire découvrir tous ces sports paralympiques. Justement, il a amené une équipe en 94, avant que j'aie cette médaille. Je ne pensais même pas que j'allais avoir cette médaille au bout. Donc ça a été la cerise sur le gâteau, comme on peut dire.
Je me rappelle du périple. Hein. Une camionnette remplie de jeunes handicapés, bien plus handicapés que vous d'ailleurs, certains. Et qui est sur les haltes pipi sur toute cette longue route entre le Gers et la Norvège, où on bataille de boules de neige, fauteuils renversés, enfin c'était la rigolade et la dynamique.
Je crois que ça a pris en plus plusieurs jours pour traverser toute l'Europe pour aller en Norvège. Même une personne valide se dit jamais, surtout dans le Gers, hein, on a du mal à aller en dehors du Gers.
Et comme on est sur Radio Présence, moi je me rappelle très très bien que Pascal Meurant chantait « Plus près de toi, mon Dieu !» et que nous sommes arrivés donc à Lillehammer en Norvège et que quand vous avez décroché la médaille d'or, alors là ça a été... C'était le début de toute cette histoire, je pense.
Déjà, les remercier, parce que d'être là, pour moi, je pouvais faire que ça.
Remercier tous les jeunes.
Tous les jeunes, voilà, d'avoir fait le voyage.
Ouais.
Ouais. Et malgré leur handicap, parce qu'il y avait des personnes dans le lot qui avaient des myopathies, on se demandait même si le froid, ce n'était pas quelque chose de déconseillé. Je pense qu'à mon avis...
Il était temps de se poser la question.
Je pense que c'est l'un des plus beaux voyages peut-être qu'ils ont fait dans leur vie, certainement, de partir comme ça en véhicule, de découvrir d'autres pays, de se dire que malgré le handicap, en fin de compte, on peut voyager, on peut faire beaucoup de choses. Il y avait une personne, justement, des jeunes qui disaient « on vit, on rigole », et c'est ce qui a été transmis.
On vit, voilà, exactement, ouais, tout à fait.
Voilà, parce que les boules de neige, elles fusaient dans tous les sens.
Il faut qu'on le revoie, ce reportage, hein. Je vais essayer de le diffuser quelque part. C'était magnifique.
Je pense que ça serait bien. C'est comme voilà, comme quand on prend un bateau, on a envie de faire un périple. Et là, ça serait bien de refaire le même périple pour voir un petit peu les difficultés qu'on avait à l'époque.
Ouais.
Parce que c'était pas du tout des directions assistées, c'était pas les mêmes véhicules qu'on avait actuellement. On n'avait pas de GPS. Donc il fallait regarder sur les cartes où se trouvait la Norvège.
Même vos fauteuils, hein, ils ont carrément évolué. C'était totalement artisanal encore.
On se demandait même si ça allait rouiller.
Mais alors vos médailles et toute la suite. C'est aussi l'histoire quand même d'une niaque, d'une ténacité, d'une combativité, je dirais presque naturelle que vous avez, puisque le premier élément à combattre, c'est les handicaps. C'est ça ? En fait, c'est quoi ? Vous savez serrer les dents, avancer ? Ce qu'on ne sait pas obligatoirement faire, nous, valide, quand tout fonctionne tout seul, a priori, je dirais. Non, est-ce que c'est ça ?
Je pense que c'est ça, c'est se dire déjà qu'on n'est pas capable de le faire, et nous, on a toujours prouvé le contraire. Voilà, le fait de nous dire qu'on n'est pas capable, pour nous, c'est là où démarre le moteur.
Ah oui, c'est ça.
On l'a prouvé.
Ouais.
Voilà. Il ne faut surtout pas dire à quelqu'un qui n'est pas capable. Et voilà. Je pense que c'est une personne qui a un handicap et qui veut surmonter tout un tas d'obstacles. Voilà. Elle est capable de tout et c'est ce qu'on a démontré.
Alors, quand j'évoquais mon admiration envers tous ces athlètes handicapés que j'ai quand même suivis pendant une dizaine d'années, hein, c'était énorme, hein, toute cette période de pionniers, et qui, moi, me régénérait moi-même, parce qu'à votre contact et à tous ces sportifs, on a tellement ri et on a vu tellement de situations épiques, je dirais, de tous les jours surmontées, que moi, j'étais en pleine admiration par leur dépassement à tous, hein, de ces athlètes. Et un jour, un médecin m'avait rétorqué avec une moue un peu dubitative, c'est de la sublimation. Sublimation du handicap, donc on va plus loin. Bon, peut-être. Moi, je trouve qu'il vaut mieux sublimer ces difficultés et trouver des solutions que de s'enfoncer dans la sinistrose et dans les problèmes comme tant de Français le font aujourd'hui, non ?
Et surtout que, enfin, moi, j'aimerais... Le pas de Lillehammer, c'est... à chaque fois, on fait les jeux 15 jours après les personnes valides. Et on regarde toujours le classement des valides et après on s'est dit, bon, là, ça a été le cas, peut-être que les valides ont moins marché pendant ces jeux-là. Et nous, on est arrivé 4e nation, donc je veux dire, quelque part, on a presque rattrapé ce que la déconvenue des personnes valides pendant les JO. Et ça, des fois, ça permet encore plus de sublimer, de montrer ce que sont capables les personnes qui ont un handicap dans le sport.
Et en dehors du sport, moi, je me demande si toutes ces facultés d'adaptation, qui sont les vôtres, hein, clairement, puisqu'il faut s'adapter aussi à la vraie vie, hein, il n'y a pas que les courses, hein, il y a toute la vraie vie à laquelle il faut s'adapter en permanence, que ce soit un trottoir ou que ce soit un accès, etc. Est-ce que ça ne pourrait pas nous être nécessaire aujourd'hui de plus les travailler pour qu'on soit plus autonome ? Je parle des valides aussi, quoi, en fait.
Mais je pense que c'est tout un quotidien. Parce que
tout un parcours du combattant.
Tout un parcours du combattant. Parce qu'après les jeux, il y a encore les jeux, parce qu'il y a, il y a le quotidien. Pour nous, c'est ça, les deuxièmes jeux, c'est ça. C'est notre quotidien, c'est notre vie de famille, c'est nos difficultés quotidiennes parce qu'on a des trottoirs qui sont inaccessibles. C'est aller au travail comme tout le monde, parce qu'on n'est pas du tout professionnel.
Faire des enfants comme tout le monde.
Faire des enfants comme tout le
les
monde.
Les élever.
Et tout ça, ben, ça permet d'être excellente tout le temps. C'est parce qu'après le sport, il y a toujours le sport. Il y a toujours une vie, justement, et qui est aussi importante. Et c'est ça qu'on démontre à toutes ces personnes valides qui ont des difficultés tous les jours d'aller à leur travail. Eh bien, on leur démontre qu'on peut faire de belles choses à côté.
Mais moi, ce qui m'épate le plus, peut-être, c'est cette façon de toujours voir le côté positif des choses que vous avez, vous en tout cas, Omar Bouyoucef. Ça m'a toujours épaté. Des fois, je n'en reviens pas. Qu'est-ce qui explique ça? Toujours voir le côté positif.
Ben, je pense que...
Ça, c'est rare quand même.
Même si j'ai eu, on va dire, la poliomyélite... Voilà, je ne suis pas le plus malheureux de toutes ces personnes qui ont un handicap. Le fait d'avoir partagé dans des centres, que ce soit des personnes qui avaient un handicap mental, parce qu'avant il n'y avait pas de différence entre tous les handicaps, les personnes qui avaient une myopathie qui arrivaient à peine à survivre jusqu'à leur vingtaine d'années, à côté, moi c'est dérisoire mon handicap. Donc forcément j'avais envie d'en sourire.
C'est clair. D'ailleurs, je pense que vous pourriez devenir coach de la moitié des Français, hein. Tous ceux qui font la gueule aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un truc, c'est que le rire, la joie, ça a été le principe du chef d'établissement, ça a été le principe aussi de l'entraîneur, c'était le principe de tous ces athlètes qui riaient d'eux-mêmes aussi. Et c'est ça qui faisait éclater au grand jour vos compétences d'enfants handicapés aussi. C'est plutôt ça. Et c'est aujourd'hui ça peut-être que vous infusez, parce qu'on va devoir bientôt terminer l'émission, il faut quand même que vous expliquiez ce que vous voulez faire avec les jeunes.
On a envie surtout de leur montrer qu'on est capable, qu'il n'y a pas de limite, handicap ou pas.
Mais parce qu'il y en a beaucoup des limites dans la tête des parents ou dans la tête des jeunes ou...
Je pense, parce que le fait d'avoir travaillé même dans une bibliothèque, alors que c'est un endroit qui est fabuleux, il y a des personnes, malgré tout, dans leur travail qui se plaignaient, alors qu'elles avaient, pour moi, elles n'avaient rien. Mais c'est toutes ces rencontres. Et je pense que d'avoir une personne handicapée, même dans le milieu du travail, ça peut ouvrir l'état d'esprit. On se plaint un peu moins. On se met moins en arrêt maladie, parce qu'une personne qui se met en arrêt maladie parce qu'elle a un problème à son orteil, admettons. Moi, j'avais des problèmes dans toute la jambe. Mais voilà, c'est pour montrer que c'est dérisoire, quoi.
Magnifique. Bon, on parlera... Probablement dans la troisième émission de votre carrière aujourd'hui, en fait, et puis de ce que vous propulsez chez les jeunes. Les jeunes doivent sortir, faire du sport et réussir leur vie aussi.
Et leur montrer surtout que d'où on peut venir, n'importe où, qu'on soit dans un milieu, je veux dire, comme le Gers, parce que qui est retiré de tout, où il y a peu d'habitants.
Ça va leur plaire.
On peut sortir des champions, justement, en préparant un jeune, justement, pour les prochains Jeux de Los Angeles. Et ça, c'est mon pari, c'est de ramener d'autres jeunes qui suivent la même trajectoire que nous. Bon, ils n'auront pas forcément les mêmes difficultés, parce que, je veux dire, il y a une meilleure notoriété maintenant, parce que les médias s'en emparent complètement tous les 4 ans, tous les 2 ans, parce qu'il y a les Jeux, on va dire, tous les 2 ans. Voilà. Mais nous, en tout cas, on a fait avancer cette cause. Les médias nous ont suivis, ils ont eu raison. Et merci à eux.
C'est clair. Et puis, on parlera aussi, évidemment, parce que ça ne concerne pas... On ne s'occupe pas que des athlètes. On parle de tous les jeunes qui doivent s'extraire de leur structure, parfois d'accueil, pour aller faire du sport. Bon, à la semaine prochaine.
Merci. À bientôt.